Lizzie présente Nevermore, les défis de Morrigan Crow. De Jessica Townsend, lu par Elena Kopeyans. À Sally, la première cliente de l'hôtel de Calion, et à Athéna pour m'avoir dit que je pouvais tout accomplir, même ce livre. Prologue. Printemps premier. Avant même l'arrivée du cercueil, les journalistes étaient là. Pendant la nuit, ils s'étaient peu à peu rassemblés devant le portail. À l'aube, une foule de gens les avait rejoints. À 9h, c'était noir de monde. Il était midi passé lorsque Corvus Crowe sortit enfin de chez lui et descendit l'allée jusqu'à la grande grille en fer forgé qui retenait les importuns.
Chancelier Crowe, cela pèsera-t-il sur votre décision de vous représenter aux élections ?
Monsieur le chancelier, quand aura lieu l'enterrement ?
Le président vous a-t-il présenté ses condoléances ?
Vous devez être soulagé, n'est-ce pas, monsieur le chancelier ?
S'il vous plaît,
les interrompit Corvus en levant une main gantée de cuir pour les faire taire.
J'ai une déclaration à vous faire au nom de toute ma famille.
Il sortit un morceau de papier de la poche de son élégant costume noir.
Nous remercions les citoyens de notre grande République de nous avoir soutenus ces 11 dernières années.
Lut-il du ton articulé et autoritaire qu'il avait développé au cours de ses années de chancellerie.
Notre famille a connu bien des malheurs, et le chagrin nous accablera encore longtemps.
Il se tut un instant pour s'éclaircir la voix, les yeux levés vers son auditoire silencieux. Une multitude d'objectifs et de regards curieux étaient braqués sur lui. Soudain, il fut assailli par un crépitement de flash.
Le deuil d'un enfant est une chose terrible,
reprit-il.
Ce deuil est une épreuve pour notre famille, mais aussi pour tous les habitants de Jacques-Alfax, qui, nous le savons, partagent notre profonde tristesse.
Au moins 50 paires de sourcils se haussèrent. Quelques toussotements gênés brisèrent le silence.
Mais ce matin, alors que nous entrons dans la 9e ère de la République de la mer d'hiver, nous savons que le pire est derrière nous.
Des coassements lugubres se firent entendre au-dessus d'eux. Tous rentrèrent les épaules, visage tendu. Personne ne leva la tête. Les oiseaux planaient en cercle depuis le matin.
La 8e ère m'a volé ma femme adorée, et voilà qu'elle vient d'emporter ma seule enfant.
Un nouveau coassement vibra dans les airs. Un journaliste fit tomber le micro qu'il tenait tout près du visage du chancelier et plongea vers le sol pour le récupérer. Il se redressa en rougissant et en marmonnant des excuses, que Corvus ignora.
Mais, en partant, elle a aussi balayé le danger et le désespoir qui avaient assombri sa si courte vie. Ma très chère Morrigan.
Il marqua une pause. Le visage déformé par le chagrin.
Elle est enfin en paix, comme nous devons l'être aussi. La ville de Jacques-Alfax, ainsi que l'état entier des grandes plaines du Loup, sont enfin à l'abri du danger. Il n'y a plus rien à craindre.
Un murmure empreint d'incertitude parcourut la foule, et les flashs se raréfièrent. Le chancelier leva des yeux humides. Son morceau de papier s'agitait dans le vent. Où étaient ses mains qui tremblaient ?
Merci.
Corvus Crowe ne répondrait à aucune question. Chapitre 1. La malédiction. 11 d'hiver, 3 jours plus tôt. Le chat de la cuisine était mort, et c'était la faute de Morrigan. Elle ne savait ni quand, ni comment c'était arrivé. Il devait s'être empoisonné pendant la nuit, Il n'y avait aucune trace d'attaque de renard ou de chien. Sans la tache de sang séché au bord de ses babines, on l'aurait cru endormi. Mais son corps était froid et rigide. Découvrant son cadavre dans la lumière pâle de ce matin d'hiver, Morrigan s'agenouilla près de lui dans la poussière. Le cœur gros, elle le caressa, du bout du museau à l'extrémité de sa queue touffue. «
Pardonne-moi, petit chat de cuisine, » murmura-t-elle.
« Où fallait-il l'enterrer ?» réfléchissait Morrigan. « Devrait-elle demander à grand-mère de lui donner un morceau de tissu précieux pour l'envelopper ?»« Il ne valait probablement mieux pas, » décida-t-elle. « Elle se servirait plutôt d'une de ses chemises de nuit. » À cet instant, la cuisinière ouvrit la porte de derrière pour donner les restes de la veille au chien. À la vue de Morrigan, elle faillit lâcher son seau de surprise. La vieille femme se pencha pour voir le chat mort et son visage se plissa de chagrin. « Mieux vaut sa vie que la mienne, grâce à Dieu !» marmonna-t-elle en frappant le bois du cadre de la porte, puis en embrassant la médaille qu'elle portait autour du cou. Elle coula un regard vers Morrigan.
« Je l'aimais beaucoup, ce chat. »«
Moi aussi, » dit Morrigan.
« Je vois ça, en effet, » murmura la femme d'un ton plein d'amertume.
Elle recula lentement, très lentement.
« Rentre donc, maintenant, » ajouta-t-elle. « Ils t'attendent dans le bureau. »
Comme Morrigan s'attardait à la porte de la cuisine, elle vit la cuisinière prendre un morceau de craie et écrire sur le tableau « Chat de cuisine, mort », à la suite d'une longue liste qui comptait parmi les derniers ajouts. « Poisson pourri, crise cardiaque du vieux Tom, inondation en prospérité du Nord et tache de sauce sur notre plus belle nappe. » Je peux vous recommander plusieurs psychothérapeutes pour enfants dans la région de Jacques-Alfax. La nouvelle assistante sociale n'avait pas touché à son thé ni aux biscuits. Elle avait, ce matin, fait le voyage en train de 2h30 depuis la capitale, puis marché sous le crachin de la gare jusqu'au manoir des Crocs. Ses cheveux, mouillés, étaient plaqués sur son crâne, son manteau complètement trempé. Morrigan réfléchissait à ce qu'ils auraient pu lui offrir de plus réconfortant que du thé et des biscuits, mais la femme n'avait pas l'air de s'en soucier.
« Ce n'est pas moi qui ai préparé le thé, » dit Morrigan. « Si c'est ça qui vous inquiète. »
La femme ne scia pas.
« Le docteur Fiedling est célèbre pour son travail sur les enfants maudits. Je suis sûre que vous avez entendu parler de lui. Le docteur Llewellyn est tout aussi renommé. Si vous préférez une main plus douce, une approche plus maternelle. »
Le père de Morrigan s'éclaircit la voix.
« Ce ne sera pas nécessaire. »
Corvus avait développé un tic nerveux de l'œil gauche, qui se manifestait seulement lors de ses rendez-vous mensuels obligatoires, ce qui prouvait à Morrigan qu'il les détestait autant qu'elle. À part leurs cheveux noirs de jais et leur nez busqué, le père et la fille n'avaient rien en commun.
« Morrigan n'a pas besoin d'aide, » continua-t-il. « C'est une enfant très intelligente. Elle a conscience de sa situation. »
L'assistante sociale jeta un coup d'œil à Morrigan, qui était assise sur le canapé à côté d'elle et tentait de rester tranquille. Ses visites traînaient toujours en longueur.
« Monsieur le chancelier, sans vouloir paraître impoli, le temps presse. Les experts s'accordent tous pour dire que nous entrons dans la dernière année de cette ère, la dernière année avant le merveillon. »
Morrigan détourna les yeux vers la fenêtre, en quête d'une distraction, comme toujours quand on prononçait le mot.
Comprenez que c'est une importante période de transition pour...
Vous avez la liste ?
La coupa Corvus sans cacher son impatience. Il indiqua du menton l'horloge au mur de son bureau.
Bien sûr.
Avec des doigts tremblants, l'assistante sociale sortit une feuille de papier d'un dossier. Celle-là ne s'en tirait pas si mal, pensa Morrigan, étant donné que c'était seulement sa deuxième visite. La précédente parlait si bas qu'on l'entendait à peine. Et si on lui avait imposé de s'asseoir à côté de Morrigan, elle aurait cru la fin du monde arriver.